Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30.
Et oui Julia, ici du lundi au vendredi, on vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille ou même votre boulot. Bref, on prend tout simplement soin de vous.
Tout à fait Mélanie, et puis ici bien sûr on vous donne la parole, on relaie vos questions, celles que vous nous laissez au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Alors au programme aujourd'hui, comme chaque jour, une grande question ouvre notre émission. Ce matin, peut-on cuisiner en 2 heures sainement pour toute la semaine? En fait, c'est le principe du batch cooking. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais nous ici, on va vous l'expliquer en détail. Comment s'organiser? Comment bien conserver tous ces plats cuisinés à l'avance? Pour en parler, nous recevrons Caroline Pessin, auteure et styliste culinaire. Elle a déjà écrit 4 ouvrages sur le sujet.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec tous les jours 2 de nos chroniqueurs. Et ce matin, Soizic Belin nous parlera de la mode des pierres qui touche aussi bien les adeptes de soins alternatifs que les fashionistas. Et puis Sophie Brafnan sera présente avec nous. C'est notre experte mode, je vous le rappelle. Et elle va nous expliquer cette tendance vestimentaire qui consiste à porter des vêtements XXL, mais pas parce qu'on veut se cacher ou parce qu'on est en surpoids. Non, juste parce que c'est trop tendance.
Enfin Julia, dès midi, dans la partie santé de cette émission, on va parler de l'asthme, une maladie très fréquente, plus de 4 millions de Français concernés et pourtant pas mal d'idées reçues qui circulent encore. Alors pour faire le point, nous recevrons le professeur Antoine Magnan. Il est chef du service de pneumologie de l'hôpital Foch.
Europe 1.
Eh bien voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre nouveau magazine Feel Good, dans lequel on vous propose tous les jours des conseils, des astuces pour vous faciliter votre vie quotidienne. Et aujourd'hui Mélanie, je crois qu'on peut le dire encore plus que d'habitude avec notre super question du jour, la voici, la voilà. Peut-on cuisiner en 2 heures sainement pour toute la semaine?
Oui, oui, Julia, ce sera du pratique ce matin, du fait maison, zéro gâchis et surtout, grâce à nos conseils, encore plus de temps pour faire des trucs qui vous plaisent encore plus la semaine. Mais avant ça, on va voir ce que lui, il en pense de cette méthode de cuisine et d'organisation. Bon, moi, je sais pas, je dis, on parle de cuisine, on parle de bonne bouffe, il est bien partant en général, c'est
évidemment.
Clément Lanoux, bonjour,
bonjour
Clément.
Bonjour, je suis ravi d'être là, en plus je viens d'apprendre que j'étais à la mode depuis un moment. Regardez, ce pull, c'est du double XL.
Rose
évidemment.
Et XXL.
Je suis complètement dans la mode. J'avais une belle question, je suis parti avec un micro dans la rue. Peut-on effectivement cuisiner sainement? Le mot sainement est important. Pour la semaine, en seulement 2 heures. 2 heures, c'est très important. L'émission, à mon avis, va captiver tout le monde, puisque quand j'ai posé la question dans la rue, la plupart doutent un peu de le faire en 2 heures.
Cuisiner sain en 2 heures pour toute la semaine. vous connaissez pas mon niveau en cuisine, alors. Hein. Parce que c'est pas 2 heures qu'il me faudrait. Peut-être même pas une journée. Puis alors, en plus, cuisiner sain... Ouais, non, moi je sais pas. Je sais pas comment c'est possible.
Moi j'ai déjà du mal à cuisiner en 1 heure pour juste un repas. Donc 2 heures pour toute la semaine, je pense qu'il va me falloir 1 mois.
Cuisiner sainement, déjà c'est compliqué, mais alors en 2 heures, toute une semaine, non, c'est impossible.
Alors tout le monde
du sceptique, du scepticisme aujourd'hui.
Vraiment, je me suis dit tant mieux, vous allez les convaincre pendant l'émission. J'ai demandé aux enfants qui pensent un peu la même chose.
Avec ma maman, on cuisine le dimanche pour toute la semaine, mais ça prend pas 2 heures. Une journée au moins.
Alors effectivement, on attend les techniques. Il y a ceux, évidemment, qui avaient la... On peut parler de flemme directement.
Personnellement, je cuisine pas. Alors, je préfère franchement acheter. En fait, moi, je prends du tout fait. Donc voilà. Et puis j'aime bien le restaurant, en fait. C'est plus simple.
Merci monsieur, c'est pas le même prix, évidemment, ça, on y reviendra. Ouais. Donc je vais me tourner vers les plus anciens. On n'est jamais déçus par
sagesse.
Nos anciens, oui.
Pour une semaine, déjà conserver une semaine au frigo, c'est pas évident. Je pense qu'il faut faire plusieurs fois des courses pour avoir des produits sains. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai des lasagnes. En ce moment, il y a des tomates, des taboulés. Mais le taboulé, ça fermente, ça se conserve pas beaucoup. Voilà, j'ai répondu.
Voilà.
On n'a pas beaucoup de choix.
Bâcher.
Mais elle avait des idées.
Elle avait des idées.
J'avoue.
Est-ce que c'est ça? Finalement, tout est résumé par cette dernière dame qui est assez énervée et qui, elle, a une condition quand même, c'est de vivre seule.
Si vous vivez toute seule, oui, sans problème. Mais alors, si vous avez des enfants comme les miens, le lendemain, il n'y a plus rien. Même un bon bœuf bourguignon, ça ne fait même pas la semaine.
C'est le problème, c'est que moi j'ai le problème, j'ai testé, c'est pour ça que je vais rester avec vous, j'ai envie de savoir. Je l'ai testé pas mal de fois, mais je mange tout le... Ouais, ou alors je mange tout le... Merci. Non, je veux dire, je mange toujours la même chose, je vais me faire des lasagnes le dimanche et je vais en avoir jusqu'au samedi, c'est peut-être pas très sain.
Et puis c'est pas le principe du batch cooking, on va en parler, restez avec nous Clément Lanoux. Et bien sûr, on vous retrouvera demain avec grand plaisir pour encore plus de reportages d'enquête à haut risque quand même sur le terrain. Oui. Alors tout de suite, je vous propose qu'on accueille notre invité du jour, c'est vous Caroline Pessin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur et styliste culinaire. Vous avez écrit 4 livres sur le batch cooking. En 2 heures, je cuisine pour toute la semaine. C'est paru en 2018. Puis, il y a eu la version light et aussi la version veggie. Alors, moi, je disais veggie, mais apparemment...
Veggie,
donc végétarienne. Dont le dernier volume vient de sortir chez Hachette Cuisine. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire les mots batch cooking? Comment on traduit ça en français?
En anglais, si on traduit littéralement, ça veut dire cuisiner en lot, en série. Mais bon, de façon plus simple, je traduis par cuisiner à l'avance.
Le batch cooking, c'est ça. Ça vous est venu d'où, vous, cette idée de vous y mettre, justement, à cette façon de cuisiner, de s'organiser? Vous avez commencé quand, d'ailleurs?
Eh bien, j'ai commencé en fin 2017, quand j'ai vu que c'était une tendance qui arrivait surtout des États-Unis. Là-bas, ils pratiquent beaucoup ce qu'ils appellent davantage le meal prep. C'est plus les sportifs qui se préparent à l'avance leurs portions de protéines, glucides, lipides pour que quand ils rentrent de l'entraînement, ils aient une alimentation équilibrée sans sortir de leur portion. Et petit à petit, j'ai vu que ça s'adaptait aux familles. Et donc, je me suis dit que c'était une super idée parce que ce n'était pas encore fait en France. Donc, mon métier aussi d'auteur culinaire, c'est de voir un petit peu quelles seront les futures tendances. Et donc, j'ai proposé ce sujet. Et puis, voilà, c'était parti. Et ça a super bien marché.
Mais dites-moi, c'est un phénomène récent en France? Est-ce que nous, on s'y est mis rapidement à cette tendance? On était un peu à la traîne par rapport aux autres?
Oui, on était un petit peu à la traîne, comme je vous disais. Ça existait aux États-Unis, en Angleterre,
déjà
en Australie.
Déjà en 2017, hein,
vous dites. Il y avait déjà des livres qui étaient...
Parce que moi, je suis sportif de haut niveau, j'en avais pas entendu parler à ce moment-là.
Il y a vraiment beaucoup d'adeptes déjà, parce que vous dites que vous avez commencé en 2017, 2018, votre premier bouquin sur le sujet. Là, aujourd'hui, alors j'imagine qu'on n'a peut-être pas mesuré dans la population le nombre de gens qui pratiquent le batch cooking, mais on sait si c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter encore.
Bah, écoutez, moi je vois quand je rencontre des nouvelles personnes ou des voisins, ils disent « Ah, mais on a vos livres !» Ouais, je suis toujours étonnée. C'est surtout les familles, en fait. Les familles avec les parents qui rentrent tard le soir du travail.
Bien
et
sûr.
Qui ont 1, 2, 3 enfants et affamés le soir à 19h. Qu'est-ce qu'on mange ce soir?
Je vous cache pas que ça m'intéresse beaucoup, votre sujet, parce que je suis très organisée, mais très mauvaise cuisinière. Donc, on va voir si ça peut marcher. Mais par exemple, je reprends la question de Clément de tout à l'heure. S'il fait un énorme plat de lasagne de 3 kilos et qu'il en mange en gros toute la semaine.
Jusqu'à ce que ce soit moisi.
C'est meilleur le lendemain.
C'est vrai que c'est meilleur le lendemain. Est-ce que ça, c'est du batch cooking?
Oui. C'est une façon de faire du batch cooking. Vous donnez l'exemple de lasagne, mais on peut faire quelque chose de comme des soupes aussi.
Ouais, mais désolé, mais toute la semaine manger le même plat.
Bah oui, alors c'est pour ça que dans mon livre j'ai pas choisi cette méthode. J'ai préféré proposer un plat différent pour chaque soir de la semaine.
Ça, on aime mieux quand même, parce que franchement, manger 5 jours, vous les aimez le 5e jour encore, les lasagnes?
Moi, je suis un cas à part, je les adore.
Un petit goût de moisi, ça peut donner un petit goût de champignon, peut-être.
Les lasagnes, j'ai 3-4 jours après, mais c'est délicieux.
Après, on peut congeler aussi, les lasagnes, ça se congèle.
C'est ça. Caroline Pessin, vous restez avec nous. On va poursuivre ce décryptage sur le batch cooking. À quoi ça ressemble vraiment en pratique? Comment peut-on vraiment cuisiner tous les repas de la semaine en une session de cuisine de 2 heures, le dimanche, par exemple? Comment tout ça rentre dans le frigo aussi? C'est une question qu'on peut se poser. On va tout vous expliquer. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine tourné uniquement sur le positif, dans lequel on vous donne le plus d'outils possibles, de conseils pour être bien dans votre tête et dans votre corps, et puis aussi dans votre assiette ce lundi. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'il s'agit. Notre question aujourd'hui, c'est: peut-on cuisiner sainement en 2 heures pour toute la semaine?
Mais oui, Mélanie, ce matin, c'est une émission pour ceux qui n'aiment pas passer des heures en cuisine en semaine.
Ça vous parle, je crois.
Oh oui, oui, en semaine ou le week-end, d'ailleurs, ça me parle énormément. Ou qui préférait plutôt passer du temps en famille au lieu de faire la popote. Alors, pour nous aider justement à gagner du temps, elle est toujours avec nous, c'est Caroline Pessin. Vous êtes styliste culinaire et l'auteur de 4 livres sur le batch cooking. Le dernier, je le montre en ce moment à la caméra, c'est « En 2 heures, je cuisine pour toute la semaine », version Veggie, je ne sais jamais comment on le dit, paru chez Hachette Cuisine. Alors, comment vous avez élaboré les recettes de votre livre? Quelle a été en fait votre démarche?
J'essaye de mutualiser les ingrédients et les préparations de façon à ne pas lancer 10 choses en même temps. Donc, il va y avoir des ingrédients communs qui vont se retrouver dans plusieurs recettes, mais de façon très différente. Par exemple, si je fais des lentilles, je vais en faire une grosse quantité et puis je vais m'en occuper de deux façons différentes. On peut faire une salade d'un côté ou un plat chaud de l'autre côté. Et on va faire un peu comme ça pour toutes les recettes de la semaine.
Vous êtes mis dans la peau d'une famille.
Exactement.
Ça s'adresse à qui, ce bouquin?
Ça s'adresse plutôt à des familles... classique, avec deux parents qui travaillent et qui rentrent tard le soir.
Ce qui n'est pas forcément votre configuration personnelle, hein. Vous êtes mis dans la peau d'une, d'une famille avec
j'ai,
deux enfants.
J'ai aussi une famille, moi j'ai un seul enfant. Mais
voilà.
Je me suis mis dans la peau d'une batch cookeuse. Voilà.
Très bien. Et on n'est pas obligé d'avoir deux enfants pour acheter le livre, c'est ce qu'on
se disait.
Ah, c'est obligatoire. Bon, ben j'y vais, je vous laisse.
Alors, j'allais dire, ce n'est pas un livre uniquement non plus pour les papas-mamans, ça peut être aussi pour les couples ou pour les personnes en solo, parce que là, on va diminuer les quantités, quoi, j'imagine.
Oui,
c'est
on peut diviser les quantités, mais c'est vrai que ça répond plutôt une problématique de famille, en fait.
Oui, c'est ça, de charge mentale,
ouais,
encore. Charge mentale, on allège, et c'est ce qu'on aime, alléger ici. On y passe vraiment deux heures, comme promis, sur la couverture du livre, à cuisiner pour toute la semaine. Parce que, franchement, honnêtement, ça paraît peu, surtout si, comme moi, on est nul en cuisine.
Et pour quatre, quoi.
Et pour quatre, j'ose même pas l'imaginer.
Eh bien, il y a même des gens qui me disent qu'ils mettent moins que deux heures. Surtout si toute la famille s'y met un petit peu. Monsieur Épluche.
Faut prendre quelques esclaves culinaires.
Ouais, voilà. Exactement.
C'est ça. La maman fait les cuissons. Les enfants peuvent vous aider aussi.
Non, mais vraiment pour des gens nuls. Hein, on se parle. En
alors
vrai,
oui, il y a des gens qui disent qu'ils mettent
deux heures et demie.
Voilà,
deux heures et demie
en comptant. On s'améliore. Et puis, en fait, dans le livre, c'est des menus. On choisit le menu, on a la liste de courses. Et puis ensuite, tout est guidé. Donc on réfléchit pas, on suit les instructions.
C'est ce qu'il me faut, ne pas réfléchir.
Deux heures vaisselle comprise, c'est surtout ça, parce qu'à la fin, j'imagine que comme vous faites tout, il doit y avoir une cuisine entière de vaisselle.
Oui, on met tout dans la vaisselle à la fin,
c'est
et
mieux.
Puis bon, c'est fait pour toute la semaine. Après, c'est ce qu'on n'a plus à refaire le soir.
Mais vous, qui êtes une warrior du sujet, du coup, s'il le faut, vous faites ça en 1h30, j'imagine.
Oui,
vous
moi je fais ça en 1h45.
Voilà, et même peut-être 15 jours d'avance, du coup, pas une semaine, c'est 15 jours de nourriture.
Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans le livre, ça respecte les saisons, en fait. Vous pouvez le faire vraiment en suivant des dates et tout. Ça, c'est
quand
c'est
je fais les photos pour les livres, je fais deux batch cooking dans la même journée. Le matin, l'après-midi, puis le lendemain, on fait les photos.
Ça vous impressionne, hein, Clément, ça?
Ah non, moi, je suis admiratif, je vais essayer de le faire.
Vous avez promis, vous allez commencer pour la saison hiver. Vous n'êtes pas prêt tout de suite.
C'est
là,
bon,
mais,
je vais faire le coup
gourmand. Moi, je trouve ça super. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez, que vous m'expliquiez comment on s'organise concrètement dans les deux heures de session de cuisine. Comment ça se répartit, vraiment?
Alors déjà, ça commence par les courses.
Ah oui, mais ça, c'est pas compté dans les deux heures.
Non, pas du tout. Et au contraire, les courses, je conseille de les faire la veille, pas le même jour que celui où on va cuisiner, parce que les courses, c'est déjà une épreuve, c'est fatigant.
L'avantage, puis, c'est que vous faites la liste, hein, donc on n'a pas besoin de réfléchir.
Donc j'ai fait la liste, on peut la prendre même en photo avec son smartphone, et comme ça, au supermarché, on n'oublie pas la liste. Et puis le lendemain, plutôt le matin, où on a un peu plus d'énergie, puis comme ça, ça laisse l'après-midi pour faire autre chose. Donc je conseille de le faire le dimanche matin, comme ça, on gagne un jour de fraîcheur sur la semaine, et puis on a encore.
Mais alors, comment on répartit les deux heures?
Alors, en général, les 30 premières minutes, c'est l'épluchage, découpe des légumes. Un peu comme on les fait en restaurant, où on prépare d'abord tous les légumes, on met à disposition dans des petites boîtes ou saladiers. Et puis là, on passe aux cuissons et on répartit dans sa poêle, dans sa casserole, les ingrédients qu'on a déjà préparés.
Donc 30 minutes d'épluchage, on va dire, et de découpe de légumes.
Voilà.
Une heure et demie de cuisson. Il y a du four, de la casserole, il y a un peu de tout.
Dans le four, c'est bien d'avoir deux étages de cuisson, comme ça, on gagne du temps aussi. Il peut y avoir une quiche au-dessus, un gratin.
Il reste une demi-heure, on fait quoi?
Et ben, la dernière demi-heure, c'est les petites sauces, les accompagnements,
les petites touches finales,
c'est ça.
Et une heure de cuisson, c'est plutôt donc le week-end, a priori, ou alors si on ne travaille pas le lundi, admettons, on peut dire que c'est le lundi. Mais est-ce qu'on peut démarrer quand on n'est pas un fort en cuisine, on va dire, comme Julien Vignali, par un demi-batch cooking, c'est-à-dire imaginer que le week-end va faire une heure de cuisine pour trois jours déjà? C'est un bon moyen de démarrer,
une solution pour des gens qui ont peur du challenge de deux heures.
Est-ce qu'on peut faire un batch cooking juste pour le dîner du soir déjà? Juste essayer de préparer son dîner le soir, c'est pas mal.
Souvent c'est frustrant, moi j'ai vraiment cette frustration quand je vis qu'à deux, de cuisiner pendant une heure et de manger en 20 minutes parfois. Et de me dire tout ça pour ça finalement. Donc c'est intéressant.
Mais le pire c'est les gâteaux, quand on fait un gâteau.
Ah oui.
Parfois
voilà,
on prend une heure et demie, deux heures
et
c'est fini en 20 minutes.
Et donc là, dans votre recette, en tout cas dans votre livre, c'est surtout cinq dîners, c'est ça? Parce que bon, le midi, la plupart des gens, soit déjeunent sur leur lieu de travail, soit il y a les cantines pour les enfants. Enfin,
donc c'est des menus pour quatre personnes. Donc parfois, quand c'est deux personnes, on peut remporter pour le lendemain midi.
Oui, enfin, il faut penser aussi à ceux qui télétravaillent. Mmh. Ça, il faut encore plus batch cooker là dans ces cas-là, non?
Oui, on peut faire deux batch cooking ou en tout cas des plus grosses quantités.
D'accord.
Voilà, okay. Et puis conserver au congélateur pendant 15 jours pour pas manger non plus tous les jours la même chose.
Mmh. Enfin bon, passer 2 heures en cuisine le week-end, pour vous, ça n'a pas l'air d'être un problème parce que vous avez l'air d'aimer ça, mais pour les gens comme moi qui n'aiment pas spécialement ça, c'est pas évident. Hein. Comment vous voulez motiver les gens? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
C'est vrai que ça s'adresse plutôt aux personnes qui aiment déjà cuisiner mais qui regrettent de pas avoir plus de temps ou plus d'idées. Parce que souvent, c'est les idées qui manquent aussi. C'est qu'est-ce que je peux faire et comment je vais les conserver? Qu'est-ce qui tient bien toute la semaine? Est-ce qu'il faut que je congèle? Donc, c'est pour ça que le livre est là, pour répondre à ces questions. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être complètement débutant en cuisine. Je n'explique pas chaque geste, comment découper un poireau.
Ah oui. Est-ce qu'il faut aller jusque-là avec vous, Julien?
Vous savez découper un poireau quand même? Non. Sur un malentendu, je peux me tromper.
D'accord. Donc, ce n'est pas pour les débutants, voilà, mais bon, un livre de disons débutants. Que si on a déjà coupé... Allez, une carotte, ça vous savez quand même, j'espère.
Mais moi, je vais prendre Mélanie Gomez, elle va batch cooker chez moi, ça sera très bien.
Je viendrai le samedi, je le ferai chez moi, puis le dimanche, je viendrai
on
chez vous,
voir,
Julien.
Il faut filmer, il faut nous montrer.
Bon, de façon très pratique, est-ce qu'il y a des outils ou des appareils ménagers? Parce que ça, je suis sûre que vous en avez chez vous, Julia, même si vous ne les utilisez
alors
pas.
Alors moi, j'ai plein de robots ménagers qui ne servent à rien, puisque je ne les utilise
j'en ai
pas.
Même pas.
C'est quoi l'indispensable?
J'ai pas d'appareil électroménager, j'utilise du matériel de cuisine classique.
Donc il faut quoi? Des casseroles,
des
pour batch cooker? Un four? Un
cuir à vapeur, four, plat à quiche,
attendez,
plat à
gratin. Il faut des Tupperware aussi?
Des Tupperware, oui, c'est bien d'en avoir, mais si on veut juste faire un petit essai pour savoir si ça nous convient, on peut tout à fait utiliser ces boîtes en plastique qu'on récupère chez le traiteur, ou alors prendre un saladier et recouvrir d'un film alimentaire, ou juste une casserole, on recouvre d'une assiette retournée.
Et puis ce qui est bien aussi, j'essaie de me motiver, c'est que même si on n'est pas très bon en cuisine, on peut faire des économies avec votre système,
non? Ça fait faire des économies, parce que en prévoyant le menu à l'avance, on sait exactement ce qu'on achète, on n'achète pas en trop, on évite le gaspillage parce que tout ce qui est acheté est utilisé, en tout cas dans mes menus, et puis on évite d'acheter des pizzas le soir, de commander, et ça revient vite cher, 4 pizzas pour...
Il pleure, fais-moi la nouille, les pizzas.
Non, je l'ai fait moi-même maintenant, depuis le confinement, je fais ma pâte, je fais tout, et j'essaie de mettre des trucs un peu sains dessus.
Vous avez une grande cuisine, il ne faut pas une grande cuisine pour tout ça, parce que je sais pas, je me dis 5 dîners dans une cuisine toute petite, vous avez préparé ça, vous, dans une grande cuisine?
Non, dans une toute petite cuisine parisienne où je tourne sur moi-même tellement j'ai pas de place. Au contraire, je gagnais du temps parce que j'avais pas de déplacement.
Elle l'a fait, donc on peut le faire.
Oui.
Les recettes de votre livre, est-ce qu'elles sont modifiables? Parce qu'on peut ne pas aimer certains ingrédients. Est-ce que ça perturbe pas trop l'organisation globale si je modifie un ingrédient?
Si c'est juste des ingrédients, par exemple, j'aime pas les poivrons, je peux remplacer par des courgettes. Oui, bien sûr, on peut
d'accord,
faire.
On peut modifier, on peut faire un peu à sa sauce quand même.
Bien sûr.
On est
même
libre.
Pour les épices, on peut changer ou pas en mettre.
D'accord, voilà. Je vous remercie.
Les recettes de votre livre, donc elles sont modifiables, mais est-ce qu'on ne tourne pas en rond au bout d'un moment? Bon, il est gros le bouquin quand même. Enfin, ils sont gros d'ailleurs, il y en a plusieurs.
Il y a 16 menus dans chaque livre et 4 livres en tout, donc une centaine de recettes.
Il y a pas mal de choses, Clément.
Il y a du choix. Alors, les trouver.
Moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi la semaine type?
La semaine type, justement, il n'y en a pas vraiment. Ça change tout le temps. Il y a des menus pour chaque saison avec donc des ingrédients de saison. Donc on
en ce moment,
menu.
Là, par exemple, on est en septembre.
Moment,
qu'est-ce qu'on peut avoir dans la semaine batch cooking?
On peut démarrer l'automne avec des bons petits fruits et légumes de saison, comme
les champignons.
On va peut-être pas faire du potimarron encore, mais il y a encore des poivrons,
les champignons.
Des champignons.
Ah oui, les champignons, là, ça arrive bien.
Des poires pour. J'aime bien mettre la poire dans une salade aussi, une petite touche sucrée, c'est agréable.
J'ai faim.
Ouais. Caroline Pessin, on reste encore un peu ensemble. On en a des choses à vous demander. Toujours sur ce sujet du batch cooking. Ce matin, c'est du pratique. On apprend à cuisiner en 2 heures le week-end tous les repas de la semaine pour gagner du temps, pour moins gaspiller aussi. On l'a compris. On y revient dans quelques toutes petites minutes. Alors à tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs.
Ah, j'adore Nino Ferrer. C'était génial.
On a
ça.
Des idées de recettes là déjà.
Les cornichons. Les cornichons, je sais faire, j'aime bien. Vous écoutez Europe 1,
c'est ouvrir un bocal.
Et encore,
sans se couper. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, dans lequel on vous guide tous les jours vers une vie encore plus positive, pour vous et aussi pour vos proches. Et ce matin, on se pose cette question, Mélanie, je la rappelle. Hein. Peut-on cuisiner sainement en 2 heures pour toute la semaine?
Exactement, Julia. Alors vous qui nous écoutez, je rappelle que pour tout nous expliquer sur cette organisation de la cuisine, notre façon de cuisiner à la maison, c'est Caroline Pessin qui est toujours avec nous. Vous êtes styliste culinaire et l'auteur du livre « En 2 heures, je cuisine pour toute la semaine » paru chez Hachette Cuisine. Alors justement, là, c'est la journaliste santé qui vous parle. Est-ce qu'en préparant tant de repas, d'aliments à l'avance, il n'y a pas un risque quand même que ben, les aliments ils sont un peu tristounes hein, au bout de 5 jours et que bah, niveau goût et même du côté nutritionnel finalement après 5 jours dans le frigo soit plus tip-top quoi.
Tristounes, non, il y a des choses qui se conservent vraiment bien en même 5 jours, par exemple les légumineuses, vous pouvez les faire cuire le dimanche et puis 5 jours après ça reste bien, ouais. Les lentilles, les pois chiches, des choses comme ça.
Oui, Caroline Pessin, vous êtes sûre de ce que vous dites hein,
parce, ah bah
que,
oui, bien hein, sûr.
Parce qu'il ne faut pas que ça n'ait pas de goût au bout de 5 jours. Hein. C'est ça
non,
qui me fait
alors
peur,
le
moi.
Goût, non, ça ne varie pas. La texture non plus. Il y a des choses qui se congèlent, mais quand on les décongèle vite, ça n'a pas traîné pendant 2 mois dans le frigo. Ce n'est pas du tout pareil. Hein.
Parce qu'on ne vous a pas demandé, mais là, on prépare tout à l'avance le samedi ou le dimanche, oui, on va dire. Ouais. Et le jour, donc le lundi, le mardi, c'est pour le soir, on va ouais. dire. J'ai plus qu'à... Combien de temps ça me prend en cuisine?
Il y a 15 minutes maximum, voilà. C'est le principe.
Donc c'est réchauffé, assaisonné.
Voilà, ou assemblé.
Ou assemblé.
Oui. D'accord, oui. Mais 15 minutes, c'est pas mal hein, pour nourrir une famille de 4, c'est top. Mais alors, pour en savoir plus sur les avantages ou les inconvénients du batch cooking, du côté vraiment nutritionnel, on va prendre en ligne une spécialiste. C'est Sophie Head. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Et donc, vous confirmez, des plats préparés parfois jusqu'à 4 ou 5 jours à l'avance, ça contient encore des vitamines? Bonjour Sophie.
Oui, bonjour à tout le monde. Bah oui, complètement, je confirme. Hein. De toute façon, dans les livres, elle rappelle bien qu'il y en a, qu'il y a des choses qui vont se conserver un peu moins ou un petit peu plus. Je suis très heureuse de l'avoir entendu parler des légumineuses, qui est vraiment le grand cheval de bataille récemment là. Par les dernières recommandations. Alors, bien sûr, comme tout, mais comme quand vous laissez un brocoli dans votre frigo, hein, qui devient tout jaune, tout seul dans son tiroir, il va de toute façon perdre un petit peu. Maintenant, c'est quand même beaucoup de choses qui ont été cuisinées, préservées. Et puis, il y a eu des cuissons douces. En fait, vous allez, comme vous avez le temps, que vous avez anticipé, et c'est bien rappelé d'ailleurs dans un des livres, j'avais apprécié, c'était marqué, ben, on va plutôt aller vers des cuissons douce. Quand vous êtes super pressé, que vous rentrez le soir et que vous voulez lancer à fond une poêle, bah évidemment, vous allez mettre une température très forte qui va dénaturer beaucoup plus le produit. Donc, je pense que le vrai mal, il peut se faire là, quand on est pressé ou quand vous achetez des
c'est ce que j'allais vous dire. Des brocolis qui ont 3 jours, c'est déjà quand même des brocolis qui auront le mérite d'être ingurgités par nos enfants plutôt qu'une pizza qu'on aura commandée à la va-vite, quoi. Donc, de toute façon.
Exactement. Voilà. Faut jamais chercher en nutrition à faire du 100% parfait. Ça n'existe pas, hein. À part cuisiner direct de son jardin, là, on essaye de faire le mieux.
Je pense qu'on se fait
beaucoup plus de mal.
Vous, c'est une façon de cuisiner, je crois que vous conseillez même à vos patients. Pourquoi vous y voyez quel avantage surtout et pour quel type de patient ça s'adresse?
Ah oui, moi je l'utilise personnellement, parce que de toute façon tout ce que je conseille à mes patients, je l'ai testé sur moi. Et je l'utilise personnellement, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidée dans l'organisation. Il y a plein de points forts, c'est vraiment la petite boîte à outils, ces livres-là, parce que il y a des patients qui savent pas par où commencer, qui ont pas d'idée. Donc déjà ça aide beaucoup. L'énorme avantage et le côté équilibré, il est par exemple sur le fait que c'est pensé à la semaine. Alors que beaucoup de gens pensent que quelque chose d'équilibré, bah c'est là j'ai mangé équilibré sur ce jour-là ou ce repas-là. Alors que bah oui, peut-être qu'il y a un jour vous n'avez pas mangé de légumes, mais dans les menus globalement ils sont bien pensés. Et le lendemain vous allez tout de suite trouver une entrée de légumes crudités ou des légumes dans le plat.
Ah oui, Clément.
Alors, oui. Est-ce qu'à l'inverse il y a pas un côté un peu déprimant de savoir ce qu'on va déjà manger dans 5 jours?
Ah, pas mal comme question.
Oui. Non mais je me pose la question, je me dis je sais pas encore ce que je vais manger ce soir, je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie d'essayer, mais je me dis, est-ce que si je sais déjà ce que je vais manger jeudi, ça va pas m'enlever du plaisir?
Oh ben non, moi je trouve pas, parce que, alors moi le livre est bien fait dans le sens où il s'adresse à tout, à des gens débutants ou expérimentés. Donc elle pousse le côté accompagnement jusqu'à vous dire, bah lundi, voilà le menu, mardi... globalement de mes patients, moi ils adorent. Enfin, de savoir, de pas avoir à penser, d'avoir une charge mentale en moins,
bah oui,
et de savoir qu'ils vont mettre plutôt leur temps ailleurs. En général, 99% ouais, préfèrent savoir. Ouais. Mais quand même, pour vous répondre, vous pouvez très bien switcher quelque chose. Vous pouvez. Je me souviens qu'un jeudi dans un des menus, il y avait une salade niçoise.
Si vous voulez la remplacer par un kebab, voilà. C'est bon.
Non, mais intervertir bah non, dans un vendredi, par exemple.
Mais bien sûr, il faut s'approprier les méthodes. Il faut, là, évidemment, l'accompagnement, il est très complet pour celui qui préfère. Et en général, je suis toujours étonnée, mais les patients choisissent toujours l'accompagnement le plus complet.
Alors, Sophie, j'ai une question, moi, qui cherche à perdre du poids. Est-ce que le batch cooking, ça peut être intéressant? Parce que j'imagine que quand on rentre du travail, si on n'a pas prévu ce qu'on allait manger, on n'est plus peut-être facilement propice au craquage, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah ouais, bah c'est le grand frein en fait en consultation. Moi je dirais que la moitié de mes patients où on bloque, on arrive à mettre en place des astuces, des choses, ils comprennent, ils sont volontaires. Et en fait où ils bloquent, c'est que bah je rentre le soir, je suis crevée, j'ai pas envie. Donc là en fait à partir de ce moment-là, on a déjà perdu la bataille et on perd confiance en soi. Donc le fait d'avoir un peu anticipé les choses, c'est comme arriver à un match préparé. Vous savez exactement ce que vous avez. Et vous avez raison, vous n'allez pas partir direct sur ça suffit, tant pis, on verra demain, ou on commence lundi, ou je commande la pizza rapidement. Non, non, vous avez des choses fait maison.
Merci.
Et je rappelle que le fait maison, c'est dans les dernières recommandations. On mange beaucoup trop d'aliments ultra transformés, donc elle est en plein dedans, on est en plein dans l'actualité nutritionnelle.
Très bien, on a compris, ça s'adressait aussi à ceux qui souhaitent perdre quelques kilos. Merci beaucoup Sophie Ed d'avoir été en ligne avec nous pour cet éclairage. Alors je reviens vers vous, Caroline Pessin, quand on cuisine tant à l'avance, la bonne conservation des aliments, elle est très importante pour pas tomber malade, c'est quand même un peu le but du jeu aussi. On va prendre quelques exemples pratiques. Les œufs durs, par exemple, il y en a dans plusieurs recettes, ça se conserve...
Oui, j'aime bien faire des œufs durs, c'est un bon aliment dans la coquille, ça se conserve 5 jours, donc vous pouvez...
Il ne faut pas les peler, par contre, il faut les écaler. Ouais.
Si vous les écalez, ça va se conserver seulement 2 jours, mais pour le vendredi soir, c'est super bien d'avoir des œufs durs déjà prêts dans le frigo.
Ah ouais, c'est bien.
Pour faire
salade composée. C'est mon aliment grignotage, justement, quand j'ai très faim, je mange un œuf comme ça.
Ça cale bien avec les protéines.
Et puis on n'a pas à les faire effectivement 10 minutes de cuisson, c'est toujours ça de gagner. La salade verte qu'on a lavée le week-end, on peut la garder combien de temps? Parce que quand même ça se flétrit assez rapidement.
Alors,
la salade.
Pas si dès qu'on rentre des courses, ou le lendemain à la limite, on la lave bien, on la sèche bien et on met dans une boîte hermétique enveloppée dans un tissu ou dans du sopalin.
Là, ça tiendra plusieurs jours.
Là, ça tient jusqu'à 10 jours.
Waouh, 10 jours. Oula, elle n'a jamais tenu aussi longtemps chez moi, mais on ne fait pas tout ça bien.
Là, vous testerez, vous me direz, parce que ça révolutionne vraiment.
Clément Lanoux.
Et la vinaigrette aussi, on peut la faire.
La salade, je découvre ce que c'est, j'ai entendu parler de ce mot, mais j'ai vu ça dans des films.
Il y en a dans le kebab,
voilà,
vous avez remarqué.
Non, je prends toujours sans salade et sans tomate, non, tout ce qui peut me faire du bien.
Les carottes râpées, dimanche, ça peut se manger jusqu'à quand?
Bah, ça va bien se conserver dans une boîte bien hermétique. Après, ça perd un petit peu en vitamines, mais il y aura toujours plus de vitamines que dans un plat industriel consommé au dernier moment, réchauffé.
Il ne faut pas avoir un réfrigérateur immense quand même, parce que préparer pour 4, vous dites pour 5 repas de la semaine, là on parle que des dîners, moi j'ai l'impression que ça ne va jamais rentrer dans mon frigo.
Quand les ingrédients sont cuisinés, ça prend moins de place, moins de volume que des ingrédients bruts éparpillés dans le réfrigérateur.
Qu'une casserole qui traîne, c'est vrai que c'est bien fait.
Surtout si c'est bien rangé dans des boîtes.
Vous n'avez pas un grand frigo américain, vous?
Non, pas forcément.
Alors, le congélateur, c'est obligatoire, par contre?
Alors, pour les menus où il y a de la viande, du poisson, oui, c'est assez obligatoire. Mais pour les menus avec sans poisson, sans viande, les menus végétariens, on n'est pas obligé de congeler.
D'accord. Parce que là, ça va tenir plus longtemps, effectivement. Moins de risque de prolifération de bactéries, etc.
Vous m'avez convaincu. Non, vous m'avez convaincu. Moi, l'argument, ça a été justement, effectivement, quand on essaie de perdre du poids, le craquage, souvent, il vient par flemme, en fait. Là, quand on ouvre, qu'on a la flemme et que c'est déjà fait, ça évite de craquer. C'est bien fait.
Et en plus, Clément, il y a l'aspect gaspillage. Vous pouvez nous en parler de ça aussi, non?
Oui. Alors, dans les menus, déjà, tout ce qui est acheté dans la liste de courses est entièrement utilisé. Par exemple, si je dis d'acheter 10 carottes, elles seront toutes utilisées et il n'y en aura pas une carotte qui va se flétrir dans le frigo.
Parce que moi, j'achète les gros sachets d'un kilo et parfois il en reste des carottes. Et là, elles ont des petits poils qui sont
de carottes. Alors, moi, pour les pommes de terre, le pot de crème fraîche, s'il y en a, il sera aussi intégralement utilisé. Et puis, il y a des ingrédients comme par exemple des radis. Je vais utiliser les fans de radis dans un pesto ou dans un velouté.
On ne jette rien.
Pourquoi il n'y a pas de dessert dans votre livre?
C'est un choix qui a été fait parce qu'on considère que dans la semaine, puisque c'est des menus pour le lundi ou vendredi, En dessert, on prend plutôt une compote, un fruit, un yaourt. Voilà. Et puis les desserts, on les réserve plutôt pour
puis
le week-end.
Puis vous n'aviez pas dit que vous vouliez perdre quelques kilos, Julia, ou parler de dessert là, tout
mais non, mais c'est pas pour moi, c'est pour une amie.
Évidemment.
C'est ça. Est-ce qu'on peut tricher un petit peu en achetant des choses, alors saines, hein, bien sûr, mais déjà préparées, je pense à des légumes congelés,
oui,
déjà coupés.
Des légumes congelés, déjà coupés, ouais. Oui, tout à fait. Ça peut faire gagner du temps si on n'a qu'une heure et demie. Oui.
Et vous avez converti, vous, votre entourage au batch cooking ?
Oui, bien sûr, oui, des gens qui ne connaissaient pas et qui ont testé et qui maintenant sont devenus des adeptes inconditionnels. Oui.
Il faut être organisé, non ? Franchement.
Et ben, avec les livres, quand on suit la liste de courses et puis le déroulé pas à pas de la session cuisine, il n'y a pas besoin d'être organisé, c'est moi qui le suis à votre place en fait.
Ah, c'est bien, mais vous faites avec les vêtements aussi, genre je vais m'habiller comme ça le mardi, le mercredi, il y a un dressing.
Ça, j'arrive pas, il faudrait une
coach.
Demandez à Julia, ça je peux vous faire votre dressing pour toute la semaine, même pour toute l'année, Clément Lanoux. Merci beaucoup Caroline Pessin de nous avoir accompagnés ce matin, merci pour tous vos conseils, on l'a compris, avec le batch cooking, on gagne du temps, on mange sain et en plus, on lutte contre le gaspillage et ça c'est génial. Merci beaucoup à vous et à présent Mélanie, je crois que c'est l'heure, l'heure de passer à la séquence tendance de ce magazine.
Oui Julia, et on va accueillir dans ce studio dans un instant nos deux chroniqueuses du jour, Soizic Belin qui va nous expliquer pourquoi les pierres affolent en ce moment toutes les fashionistas et Sophie Braffman, elle aussi sera avec nous, notre experte mode fringue qui nous dit aujourd'hui, vous verrez que les vêtements XXL c'est ce qu'il y a de mieux pour être très branché. À tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre nouveau magazine positif ici. On vous livre tous nos conseils, nos bons plans pour prendre soin de vous et de vos proches. Et donc maintenant, Julia, on va démarrer la séquence tendance de cette émission.
C'est tout à fait ça, Mélanie. Et justement, pour commencer, Sophie Braffman, vous êtes notre spécialiste mode dans cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, pour votre chronique, je crois que vous avez vu les choses en grand, en très grand même.
En très grand, mais justement parce qu'il y a du travail, un vrai défi de taille d'ailleurs à relever quand on parle de mode XXL.
Bon, merci Sophie, on revient avec vous dans quelques minutes pour du grand, on a compris du big, du XXL. Mais maintenant je me tourne vers vous Soizic Belin, vous allez nous parler du pouvoir des pierres.
C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui avec la witch tendance, la mode de la figure de la sorcière, posséder et porter des pierres semi-précieuses c'est un peu le passage obligé pour être dans le coup. Qu'on choisisse d'arborer un lapis lazuli par pur esthétisme ou par croyance en ses vertus, finalement ce n'est plus la question. Depuis quelques années, on constate un retour aux valeurs essentielles, à la nature, au green, au bien manger, locavore, bio. On est dans le care, pour soi, pour les autres, pour la planète. Alors finalement, la tendance des pierres semi-précieuses est parfaitement logique. Cependant, je me permets une parenthèse importante. Ma chronique n'est certainement pas là pour vous dire si vous devez ou non croire au bienfait des pierres. Et précision capitale, qu'elles aient du pouvoir ou pas, elles ne sont certainement pas là pour pallier à un quelconque traitement médical. Ceci étant dit...
On reprend le zen, c'est zen.
Le fait est qu'elles sont là, les pierres, reprises abondamment par des grandes marques de mode, de joaillerie, mais aussi par des petits créateurs qui ont choisi de flirter avec ce marché porteur. Il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine féminin pour s'apercevoir que le quartz rose, l'améthyste, le jaspe, les cristaux ont la cote. Ces marques invoquent l'empouvoirment féminin pour justifier l'utilisation de ces matières dans leur création. Alors le quartz rose, considéré aussi bien comme la pierre de l'amour lorsqu'elle est portée en bijoux, elle permettrait de capter les vibrations liées au sentiment de l'amour. Elle vous aiderait à conserver la douceur dans votre couple. Et lorsqu'on la retrouve sous forme de mini-rouleaux amassés sur votre visage, elle aurait des propriétés liftantes.
Oui, je confirme, tous les matins.
C'est vrai ?
Oui, tout à fait.
J'allais vous dire, est-ce que c'est un argument marketing ? Mais si vous me dites que ça fonctionne...
Sur moi, ça marche, en tout
d'accord.
cas. Mais attendez, il y a aussi l'ambre, qui est quand même vachement connue pour aider à soulager les bébés, notamment lors des poussées dentaires. Et c'est même vendu en pharmacie.
C'est vendu en pharmacie. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas, est-ce que c'est un placebo ? Je pose la question, encore une fois, j'apporte juste l'info, mais j'en ai
je
parlé.
Je donne la réponse, c'est un placebo.
Je sais que vous n'y croyez pas.
Mais j'en ai mis quand même à mes enfants parce que c'était voilà. joli. Attention aux accidents quand même,
oui,
parce
oui,
qu'il y a des
colliers.
Enfants qui se sont un peu...
C'est ça. Voilà. Mais enfin, en tout cas, j'en ai parlé à la propriétaire de la boutique La Roche-Mère à Paris, qui est un lieu incontournable si vous croyez au pouvoir des pierres. Et sa réponse est la suivante. L'ambre n'a pas un impact sur les dents ou les gencives. L'ambre permet de détendre le corps, de relaxer, et la relaxation permet un relâchement du jeune enfant qui dessert ainsi sa mâchoire.
Ah, bon, donc curieuse que vous êtes, je commence à vous connaître un peu, vous êtes rendue sur place, j'imagine.
Tout à fait, je me suis rendue à La Roche-Mère. C'est samedi après-midi, dans la rue, il y a la queue, mais c'est tout le temps comme ça, ici. Alors finalement, tout le monde prend son mal en patience. J'y ai rencontré quelques clientes.
Donc vous êtes ici depuis combien de temps ? Une demi-heure, là, vous faites la queue ?
Oui, je pense, oui.
Donc ça fait une demi-heure que vous faites la queue, et vous êtes venue ici pour quelle raison ? pour accompagner une amie, puisqu'elle n'est jamais venue.
Et vous, vous êtes déjà venue ?
Moi, je suis déjà venue avec une autre amie, et je ne croyais pas du tout Pierre au départ. Et finalement, je suis revenue plusieurs fois.
Donc, ça a eu un impact positif
oui.
sur vous.
Oui.
Et vous avez convaincu votre amie, qui à la base est ouverte sur ce genre de choses, ou pas particulièrement ?
Ça dépend quoi, mais là, les pierres, non ?
Les pierres, non.
Une demi-heure pour des pierres, wow.
Voilà, une demi-heure pour motivés, des pierres. Hein. Alors la jeune femme qui l'accompagne, elle n'y croit pas, donc elle attend quelque chose, une révélation certainement. En tout cas, les femmes deviennent, enfin c'est majoritairement féminin, donc elles deviennent des ambassadrices en postant des photos sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça marche. Alors on vient ici pour obtenir un bilan énergétique, c'est simple, on vous pose aucune question, mais en passant la main autour de votre corps, on sent les ondes, et les personnes qui tiennent ce lieu vous conseillent une pierre en fonction de vos attentes et de vos besoins, ceux-là même qu'ils auront réussi à deviner, parce que vous ne dites pas pourquoi vous venez sur place. C'est ça qui est bluffant, finalement c'est un petit côté spectacle.
Et du coup, je suis très curieuse d'essayer ce bilan énergétique pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, j'ai aucune attente, mais beaucoup de curiosité. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur la médecine douce et alternative, plutôt sur l'anticipation de la prévention plutôt que de guérir, qui est très la médecine occidentale. C'est ça qui me plaît en fait.
Alors évidemment, si vous êtes très cartésien, ce genre d'endroit pourra vous paraître un peu New Age, mais sachez que vous n'êtes pas obligé d'y croire pour franchir la porte. Et puis sinon, il vous reste d'autres façons d'utiliser les pierres de manière un peu moins ostentatoire qu'en les arborant à votre cou. Vous pouvez les utiliser dans de l'eau de votre gourde pour la purifier. Il y a des mélanges qui sont proposés par la marque Via notamment. Je vous donne un exemple de mélange, le mélange Feu Sensuel qui est composé de grenat, de cristal de roche, le mélange Harmonie également de quartz rose. Alors n'allez pas évidemment vous soigner en vous frottant un morceau de caillou sur la tempe.
Non,
ce
surtout
n'est pas.
Hein. Pas
conseillé, voilà. Mais sachez apprécier l'esthétique des pierres. Et ce sera déjà une belle tendance. Et je vous laisse avec Léonard de Vinci. Il disait « L'améthyste a le pouvoir de dissiper les pensées mauvaises et d'affiner l'intelligence. »
Bon, ça a l'air très joli tout ça.
C'est
pourquoi
beau.
Pas
Merci
beaucoup,
Soazic.
On vous retrouve très bientôt pour d'autres tendances. Vous restez encore un peu avec nous parce que je sens déjà que les conseils vestimentaires de Sophie Braffman vont vous intéresser. Quoique, Sophie, pour un petit brin de femme comme Soazic, toute menue, ça va s'y prêter, le XXL ?
Peut-être pas le XXL, mais la mode inclusive, parce que peut-être que Soazic peine elle aussi à s'habiller. D'ailleurs, par exemple, la mode inclusive, ça concerne tout le monde. Hein. Adriana Carambeu, quand elle cherche un jean, elle ne trouve pas sa longueur de jambe. Et ça c'est hyper difficile. Bah et il y a de plus en plus de mannequins qui ont ce problème. Elles n'ont pas la bonne longueur de jambe pour le bon jean. On n'en parle pas assez.
C'est triste. Ouais.
Ouais, c'est très très dur. Bon, moi perso, c'est plutôt le problème de l'ourlet. Hein. C'est le problème inverse. Alors pourquoi je voulais vous parler de cette mode XXL et non des jambes d'Adriana, hein, qui est un sujet en soi. C'est tout simplement que de trop nombreuses enseignes s'arrêtent encore et toujours aujourd'hui au 42. Or, 40% des Françaises font un 44 et plus. Alors, l'offre abonde en 36. Sachez que quand vous faites un 36, vous avez 20 fois plus de chances de vous habiller. Pourtant, cela concerne moins de 10% des Françaises qui font cette taille.
Donc, il y a un vrai sujet sur cette mode invisible. Ça, c'est sûr.
Alors, un énorme sujet. Dans les Échos de ce week-end, d'ailleurs, il y a un dossier dédié à la mode XXL qui s'appelle la mode XXL, un défi de taille. Et on nous dit même, donc les choses évoluent de plus en plus, 25% des Françaises vont au-delà du 46 et ne trouvent pas du tout chaussures à leurs pieds. Encore des looks noirs entre l'effet parachute et le sac poubelle, ou alors des vêtements hors de prix, mais il y a une petite éclaircie, bonne nouvelle, il semblerait que les choses s'améliorent, il faut dire qu'on partait de très très loin. Alors j'ai interrogé l'une des pionnières en la matière, elle s'appelle Stéphanie Zwicky, elle est blogueuse et mannequin grande taille, pour savoir si elle marque évoluait tout de même dans le bon sens.
Oui, je trouve que la mode grande taille est en train d'évoluer. Je dirais plutôt la mode inclusive, c'est-à-dire qu'en France, on voit de plus en plus de marques développer les collections du XS au 5XL ou du 34 au 52, 54. Donc je pense qu'on a une plaque tournante au niveau de la mode et ça, c'est plutôt cool.
Bon, mais oui, c'est plutôt positif tout ça, Sophie.
Alors, Mélanie, les choses avancent, notamment en France, où on pays de la minceur bien connue. Fini le moment de gêne pour demander tout bas la petite robe en noir strassée à 44 à une vendeuse filiforme qui vous répondait « Non, pas vraiment, pas ici, madame ». Alors, totalement fini le body shaming, cette tendance qui consiste à fustiger quelqu'un sur son physique, notamment via les réseaux sociaux. Du côté des influenceuses mode, la tendance est plutôt à « Regardez, je mange un énorme burger avec des frites, mais bon, je fais un 34, j'ai un super super métabolisme. Alors, au fond, on sait très bien que la fille en string au bord de sa piscine à Saint-Barth, ben, elle mange de la laitue. Sauf que la laitue, ce n'est pas Instagrammable.
Mais c'est pas très Saint-Barth, hein, en fait, la laitue, effectivement. Non. Mais c'est vrai qu'elle nous ment, hein, ces Instagrammes. Je suis sûre qu'elle ment. On peut pas comme ça s'empiffrer et mais faire c'est des 34. Vous le confirmez, c'est faux, Sophie.
Non,
Brofman.
Mais bien sûr qu'elle nous ment. C'est juste qu'elles veulent faire des photos où elles ont l'air cool dans cette tendance du porn food. Un ouais, peu, bah, hein. Voilà. C'est
super,
juste ça.
Super. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer la prise de conscience auprès des marques?
Alors là aussi, justement, Stéphanie Zwicky a un petit message.
Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'écologie et de la mode polluante. Et que pour les nouveaux créateurs ou les marques qui ont envie de changer, je pense que dorénavant, penser plus large et plus inclusif est un réel changement et une très bonne idée. Produire moins, mais mieux. Moins de pièces, mais mieux penser.
Des pièces mieux pensées et moins nombreuses, ce serait donc ça la solution. Écolo, oui, mais pour tout le monde, parce que la mode grande taille présuppose aussi sa logistique de fabrication, des belles matières, des coupes bien pensées, attention aux points de craquage, comme celui de l'entrejambe. Alors, je vous ai réservé un petit carnet, les filles, de ces marques inclusives, nouvelles venues sur le marché et de bonne facture. On commence avec Almé, un esprit un peu à la Cézanne, avec des pièces qui vont du 36 au 54, des pièces élégantes et accessibles. On va du short à la petite robe, en passant par la blouse fluide et imprimée.
Ah, ça, c'était Almé. Hein,
ça s'appelle Almé, exactement. On continue avec un très joli nom aussi, Bonnie and Tess. Alors là, on part du 38, on va jusqu'au 60. Un travail exceptionnel fait sur les matières et leur provenance, pour aller dans cette idée de slow fashion toujours. J'aime beaucoup les titres des pièces. Une robe baiser volé, un fuseau vivre sa vie, ou encore une blouse amour fou. Wow. Alors là, on a vraiment un vestiaire d'indémodable standard que vous allez conserver. Enfin, un coup de cœur pour moi, Loom, qui vient de lancer son vestiaire...
L-O-O-M.
Exactement, L-O-O-M. Et alors là, on va du XS au 3XL. Il faut savoir que cette marque se rêve en H&M éthique et inclusif. Pour l'instant, du côté du vestiaire des femmes, il y a peu de références produits parce que c'est l'emblème du produire moins mais mieux, mais de la super qualité, notamment qu'on voit les t-shirts en coton et les chemises Oxford. Et enfin, côté lingerie, prima donna, puisqu'ils vont jusqu'au bonnet 110K et 52 en culotte. Voilà quelques idées pour se vêtir joliment avec un tant soit peu d'éthique, car finalement, peu importe la taille, pour vu qu'on ait la tenue.
Oh mais que c'est beau, c'est bien joli. Dit, merci Sophie Brofman. Ça nous donne un peu plus d'espoir, l'envie de rentrer dans les boutiques et de trouver une mode qui nous correspond. Merci beaucoup. Merci à vous également Swazik, on vous retrouve évidemment toutes les deux très bientôt dans Bienfait pour vous avec d'autres tendances mode et d'autres conseils loisirs. En attendant Mélanie, place à la santé et au bien-être.
Oui Julia, dans quelques minutes ce sera notre dossier santé avec un focus sur l'asthme ce midi. Des millions de Français concernés, petits ou grands, et d'ailleurs dans 20% des cas sans jamais avoir été diagnostiqué. En effet, de nombreuses idées reçues circulent encore sur cette maladie. On va faire le point avec le pneumologue, le professeur Antoine Magnan. Restez sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1. Le programme d'Europe Midi avec vous, Romain Desarbre. Bonjour Romain.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le programme d'Europe Midi dans une demi-heure. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir aujourd'hui. La maire d'une commune de Gironde a renvoyé chez lui un élève transporté par la police municipale dont la maman refusait de payer la cantine. La dette est de 800 euros. La maire de Saint-Médard en Guisière sera en direct avec nous dans Europe Midi. CNews contraint d'arrêter l'émission avec Éric Zemmour à cause de la décision du CSA qui demande que soit décompté le temps de parole de l'éditorialiste. Éric Zemmour, qui n'est pourtant à ce jour pas candidat à la présidentielle, cette décision du CSA touche à la démocratie à 7 mois de l'élection présidentielle. On en parlera avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Le procès Benalla, à partir d'aujourd'hui, l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron va devoir s'expliquer devant la justice sur les coups portés à des manifestants violents en 2018 lors des manifestations du 1er mai. Marion Dubreuil est sur place au palais de justice de Paris. Et puis la colère des charcutiers face à l'application Yuka, vous savez, qui scanne les qualités alimentaires des produits dans les supermarchés. Cette application est sévère avec la charcuterie. Résultat, des ventes en baisse. On sera avec un représentant du secteur de la charcuterie. Voilà pour le programme d'Europe Midi. À tout à l'heure.
Europe 1. Merci beaucoup Romain. À tout à l'heure.
Europe 1, 11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et là, dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Julia, on va prendre soin surtout de votre santé.
Oui, c'est tout à fait ça Mélanie, puisque dès midi, comme tous les jours, nous serons accompagnés d'un invité. Et aujourd'hui, c'est le professeur Antoine Magnan. Il est chef du service de pneumologie de l'hôpital Foch à Suresnes. Et avec lui, nous ferons le point sur ce qu'est vraiment l'asthme. On tordra le cou aussi à certaines idées reçues autour de cette maladie. Un sujet concernant, puisque environ 4 millions de Français sont asthmatiques.
Et puis à 12h20, ce sera le bouquet final de l'émission, la chronique vite fait, très bien fait. Et aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Carreau, qui serez aux commandes. A priori, vous êtes le monsieur livre d'Europe 1. On se demande pourquoi vous êtes là.
Mais parce que les livres font du bien, je vous signale.
Oui, c'est vrai.
Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui particulièrement, ça s'appelle Voyage avec un âne dans les Cévennes de Robert Louis Stevenson. Stevenson, qui est aussi et surtout l'auteur de
L'île au trésor.
Bravo. Ben, vous verrez, ce livre-là aussi est un trésor. Vous voyez aussi que j'ai le sens de la formule.
Bravo.
Merci Nicolas. On vous retrouve dans quelques minutes, mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1. Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire.
Voilà, on démarre tout de suite la dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé. Plus particulièrement aujourd'hui, on va s'attaquer à notre santé respiratoire avec ce dossier consacré à l'asthme et à ces idées reçues qu'on a parfois. Alors pour faire le point, vous êtes avec nous. Bonjour professeur Antoine Magnan.
Bonjour Mélanie Gomez.
Et Julia Vignelli, bonjour professeur Magnan, on ne se connaît pas encore. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de pneumologie à l'hôpital Foch à Suresnes. Et donc, on propose à nos auditeurs ce midi un éclairage sur l'asthme avec vous. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est quoi l'asthme concrètement? Quelle est la différence entre des poumons sains et ceux de quelqu'un qui est asthmatique?
Entre Julia et moi, quoi. Voilà, mes poumons d'asthmatique et ceux de Julia, il y a quoi comme différence?
Et ben, c'est d'abord l'inflammation. Et quand on parle de l'inflammation, ça veut dire... C'est comme une brûlure, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire que c'est une muqueuse qui est attaquée et qui, en réponse à cela, eh bien, va attirer des cellules, qui sont les cellules du système immunitaire, qui créent l'inflammation. À ce moment-là, ça ne déclenche pas de symptômes, mais à force, ça finit par faire se contracter le muscle qui est autour des bronches, et c'est à ce moment-là qu'on a des difficultés respiratoires, que ça siffle, qu'on est réveillé la nuit, ou qu'on est gêné à l'exercice.
Bon, donc des poumons avec une muqueuse plus inflammatoire. Première idée très répandue, on pense souvent que l'asthme, ça commence dans l'enfance, mais est-ce que ça peut toucher quelqu'un, je ne sais pas, tout d'un coup, à 40 ans, par exemple?
Absolument, c'est même assez fréquent. Hein. C'est souvent des asthmes qui sont non allergiques, contrairement aux à l'asthme de l'enfant, qui est le plus souvent très largement allergique. L'asthme qui survient à l'âge adulte est souvent non allergique. Du coup, on connaît moins bien ces mécanismes, forcément. Mais les traitements sont les mêmes et les évolutions aussi.
Justement, cet asthme, on entend dire que parfois la puberté, il peut disparaître. Mais est-ce que ça veut dire que le patient est guéri définitivement? Ça ne reviendra jamais?
Alors d'abord, la disparition à la puberté, c'est pas vrai, globalement. C'est-à-dire qu'il y a des asthmes qui se déclenchent à la puberté. Il y en a aussi, effectivement, qui se calment et on ne sait pas très bien pourquoi. On sait qu'il y a quand même qu'il y a un rythme un peu hormonal dans certains asthmes. Mais il faut oublier ça. Il faut oublier ça et il faut se dire que l'asthme ne guérit pas. C'est-à-dire que même s'il y a des périodes de rémission qui peuvent durer des années, du coup, on peut se dire...
Sans médicaments, vous voulez dire, de rémission.
Sans médicaments. Ben, à un moment donné, il peut se réveiller et ça peut redémarrer. Donc, il faut l'avoir à l'esprit, même si c'est rassurant.
Bon, j'ai entendu dire qu'un asthmatique sur 5 ignore qu'il l'est. Je ne vois pas comment c'est possible de ne pas le savoir. Il y a quand même bien ces crises d'asthme qui sont qui parlent fort parfois. On voit quand même à peu près que ça ressemble à ça. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de diagnostic qui a été posé?
Alors, quand c'est des vraies crises d'asthme qui amènent aux urgences, le diagnostic, dans ces cas-là, il est fait. Après ça, il faut que les gens l'acceptent. C'est-à-dire qu'asthmatique, il y a encore derrière tout un tas de fantasmes, ah là là, non, je veux pas être asthmatique. Et donc, il faut assumer le diagnostic aussi. Et quelquefois, c'est ça. Et puis, je pense aussi que la toux, qui est un symptôme qui est très fréquent et qui peut être négligé. Hein. On se dit, c'est normal de tousser, il tousse un peu, il tousse tout le temps, etc. Ou je tousse tout le temps. Eh bien, non, il faut s'en occuper parce que la toux, c'est souvent, et c'est le plus souvent d'ailleurs, la toux chronique, le reflet d'un asthme.
Alors justement, comment savoir qu'on est asthmatique? On fait attention à sa toux, mais autrement?
Bah autrement, on va discuter avec un professionnel de santé on va rechercher comment se déclenche cette toux. Est-ce qu'elle est associée à une rhinite allergique, par exemple? Est-ce qu'il y a eu une histoire d'eczéma dans l'enfance? Est-ce qu'il y a eu des bronchiolites à répétition dans la petite enfance? Est-ce qu'il y a un bilan allergologique qui doit être fait? Est-ce qu'il y a des tests cutanés qui sont positifs? Et puis le souffle, ça se mesure. Et il faut absolument avoir une spirométrie qui permet là de révéler ce que je disais en commençant, c'est-à-dire cette contraction des muscles bronchiques et donc le diagnostic d'asthme. Alors on peut aussi diagnostiquer l'inflammation maintenant en soufflant dans une machine qui mesure l'oxyde nitrique qui est présent dans l'air expiré et qui est un reflet de cette inflammation de type asthmatique sur lesquelles on a des armes redoutables aujourd'hui qui marchent bien.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'asthmatiques en France? Est-ce que ça continue d'augmenter? Si oui, pourquoi?
Alors, ça a été vrai pendant très longtemps et donc on a une prévalence, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, 4 millions. Oui, c'est ça, c'est à peu près 8 à 10 % des Français qui sont asthmatiques ou qui vont l'être ou qui l'ont été. Hein. On pense que, enfin, ça on pourrait en parler pendant des heures, donc, parce qu'il y a beaucoup de questions quand même sur l'augmentation de la prévalence, mais on pense que c'est quand même une modification du mode de vie, et en particulier un rapport aux microbes, hein, qui est probablement à l'origine de pas mal de maladies chroniques, et donc de plus en plus on s'intéresse aux microbiotes, et notamment aux microbiotes des bronches, aux microbiotes pulmonaires, probablement...
Parce qu'il y en a dans nos intestins, il y en a sur notre peau, et il y en a dans nos poumons aussi.
Exactement, ouais. On a longtemps cru que les poumons étaient stériles, on se demande vraiment pourquoi on a cru ça d'ailleurs, mais en tous les cas, il y a un microbiote et c'est un bon microbiote, mais quelquefois il est déviant et quelquefois il peut être à l'origine de pathologies chroniques.
Alors on a dit qu'on allait évoquer certaines idées reçues et justement du côté des traitements, les gens pensent souvent qu'un asthmatique, son traitement c'est en gros la ventoline, mais en fait c'est pas tout à fait vrai car ça ne traite pas la maladie, la ventoline. Alors, quels sont les vrais traitements de l'asthme?
Alors, la ventoline reste un vrai traitement des symptômes.
Des symptômes.
Et ça, je pense qu'il faut, aussi le redire, parce qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment ce qui va relâcher le muscle, ce que j'expliquais en commençant. Mais en relâchant le muscle, on ne traite pas l'inflammation. Mmh. Et c'est vraiment l'inflammation qui est à l'origine du déclenchement des symptômes. Donc, il faut un traitement anti-inflammatoire, qui est le plus souvent, très très largement, un traitement anti-inflammatoire d'action locale, en spray ou en poudre, qui est un corticoïde, mais un corticoïde inhalé qui n'a pas les effets secondaires des corticoïdes par voie générale.
Alors, parfois, il faut quand même en prendre des médicaments donc corticoïdes par voie générale. Et donc, dans les asthmes les plus sévères, les médicaments qu'on a évoqués là ne fonctionnent pas parfois. On a d'autres choses aujourd'hui qu'on peut proposer aux patients. Il y a de nouveaux traitements, des biothérapies, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement
oui.
ce que c'est?
Alors, on peut commencer quand même en rebondissant sur ce que vous évoquiez en disant l'asthme est sous-diagnostiqué. L'asthme sévère est vraiment sous-diagnostiqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'asthmatiques qui restent dans le giron de la médecine générale, des conseils, etc., sans qu'on mette l'étiquette asthme sévère. Et c'est important de le faire parce que effectivement il y a des nouveaux traitements, alors des nouveaux traitements, ils ne sont pas si nouveaux que ça, ça fait une dizaine d'années quand même, qui chez certains asthmatiques, et ça dépend un peu de ce que l'on appelle le phénotype d'asthme, c'est-à-dire le type d'asthme, eh bien ce sont des médicaments qui sont parfois spectaculairement efficaces, sans les effets secondaires des corticoïdes.
Ce sont des injections,
la
hein, je
même
crois.
Efficacité. Ce sont des injections sous-cutanées, voilà, et qui se font une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Hein. Ce n'est pas non plus des traitements qui sont lourds. Et c'est même plutôt quelquefois moins lourd que des pchites tout le temps. Voilà. Et en tout cas, il n'y a pas les effets secondaires des corticoïdes par voie générale au long cours.
Alors professeur, autre idée fausse, les asthmatiques ne peuvent pas faire de sport ou certains sports?
Oui, idée fausse, à part le parachutisme et la plongée sous-marine avec bouteille très profond. Et encore, quand les gens sont très bien équilibrés et que leur fonction respiratoire est normale, on peut travailler la question si c'est des sports indispensables pour eux. Mais effectivement, le sport est plutôt recommandé, mais vraiment recommandé très fortement.
Hein. Ça améliore l'asthme de faire du sport ?
Oui, ça améliore l'asthme parce que ça améliore la sensation d'essoufflement. Et donc, rien que d'améliorer ça, ça améliore la qualité de vie. Ça permet de mieux gérer son asthme et ça améliore l'asthme.
Très bien. Professeur Magnan, ne bougez pas, on n'en a pas encore terminé avec vous et avec ce sujet, ces idées reçues autour de l'asthme ce midi. Juste après, on va passer aux questions de nos auditeurs, celles que vous nous laissez, je le rappelle, via Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou sur notre répondeur au 3921. A tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio avec Mélanie Gomez dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et plus précisément à l'asthme. Aujourd'hui, on en parle avec vous, professeur Antoine Magnan. Je rappelle que vous êtes chef de service de pneumologie de l'hôpital Foch. Alors, on va passer aux questions de nos auditeurs, à commencer par celle-ci via Instagram de Luce. C'est une jeune maman qui demande si vous savez pourquoi systématiquement son fils de 7 ans fait une crise d'asthme la semaine de la rentrée. Bon, elle précise qu'il n'est pas allergique à l'école.
Oui, bah c'est une bonne question. Et c'est vrai, c'est connu, c'est démontré qu'il y a une recrudescence des exacerbations d'asthme, et donc des déstabilisations d'asthme au moment de la rentrée scolaire.
Pourquoi ?
Alors, bon, y a plein de raisons. Alors, il y a des raisons qui sont...
Le ménage n'a pas été fait pendant l'été.
Ah, je me demandais qu'est-ce que j'allais mettre en premier, mais peut-être l'anxiété quand même en premier.
Ah oui, d'accord.
L'anxiété est quand même une cause de déclenchement des symptômes, non seulement bien documentée, bien connue, mais presque évidente, quoi. Et ça, c'est une période qui est chargée d'anxiété pour les parents, pour les enfants, pour tout le monde. Et puis, il y a les virus. Et ça, je pense que c'est la deuxième cause aussi bien démontrée. Donc, on en parle beaucoup au regard du Covid sur qu'est-ce qui va se passer à la rentrée des classes, etc. Mais c'est vrai que les enfants se remettent ensemble et réimportent des virus qui sont allés chercher ailleurs. Et c'est quand même la cause principale de déclenchement des symptômes, c'est les virus.
C'est un petit rhume qui va dégénérer en crise d'asthme,
exactement,
des choses comme
exactement,
ça.
Ouais. Associé à la rhinopharyngite habituelle de la rentrée, et ben, il y a une déstabilisation des symptômes d'asthme. Et oui, et c'est quand c'est systématique, il faut y penser à la fin des vacances et renforcer un peu le traitement.
C'est pas aussi, j'allais dire, les gamins qui ont laissé un peu tomber le traitement pendant l'été, peut-être
ouais,
aussi
ouais. Vous avez parfaitement raison, c'est probablement la troisième, la troisième cause. Vous avez tout à fait raison, c'est que l'été, on lève le pied, on fait moins attention, il y a moins d'anxiété, donc ça va mieux, donc, etc.
Donc, si je comprends bien, pour anticiper les prochaines rentrées, on fait quoi ?
Eh bien, on remet les pendules à l'heure, quelques jours avant la rentrée. Est-ce que le traitement il est bien là ? Est-ce que les flacons sont pleins ? On réexplique probablement aussi à l'enfant et puis on le refait rigoureusement. Et si on a déjà fait ça les années d'avant et que ça quand même il y a quand même eu des crises d'asthme, bah, peut-être qu'on demande à son médecin généraliste de renforcer un peu le traitement pour cette période-là. C'est tout à fait entendable.
J'en profite parce que vous avez dit le mot Covid. Est-ce que ces enfants-là asthmatiques, alors s'ils ont plus de 12 ans hein, pour l'instant en l'état, est-ce qu'il faut les faire vacciner ? Est-ce qu'on peut les faire vacciner ?
Quelles
sont les recommandations ? Ils sont plus à risque parce que asthmatiques par rapport au Covid ?
Alors, ils sont pas plus à risque parce que asthmatiques. Et ça, il faut le dire de façon assez forte et pour tous les asthmatiques. Les asthmatiques ne sont pas plus à risque d'être atteints par le Covid, ni d'avoir des formes graves. Donc ça, c'est important. Pour autant, aujourd'hui, il faut qu'on soit vacciné.
Ensuite, professeur Magnan, il y a cette question d'Odile, 61 ans, sur le 39-21 de notre répondeur. Elle demande, si on ne traite pas l'asthme, en dehors du fait qu'on risque la crise, que se passe-t-il à long terme ? Est-ce qu'un poumon d'asthmatique non traité va s'abîmer à la longue ? Elle demande ça, je précise, car son fils de 30 ans ne prend plus très bien ses médicaments depuis longtemps.
Bon, donc ça va barder.
Oula, on va se faire gronder là.
Mais elle a raison. Elle a raison. C'est elle qui a raison. C'est-à-dire que
les mamans ont toujours raison de toute façon.
Effectivement, on garde une réversibilité pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'en prenant le traitement, on revient à la normale. Mais si on prend pas le traitement et si les symptômes se succèdent, etc. Eh bien, il y a ce qu'on appelle le remodelage qui s'installe. C'est-à-dire que c'est la structure des bronches qui se modifie et à ce moment-là, il y a une altération durable de la fonction respiratoire qui s'installe. Donc c'est un plaidoyer pour bien prendre son traitement.
Très rapidement, une dernière toute petite question. C'est Julien qui vit près de Tours qui dit qu'il a déjà deux petites filles asthmatiques qu'ils attendent avec son épouse un troisième enfant dans quelques mois, un petit garçon. Il demande si c'est inéluctable, il sera lui aussi atteint d'asthme, est-ce que c'est génétique ?
Alors inéluctable, sûrement pas. Génétique, un petit peu. De toute façon, il le démontre. Il y a des formes familiales. Il y a des formes familiales qui sont multigéniques. Donc il n'y a pas un gène que de l'asthme, mais il y en a de nombreux et qui sont liés souvent à l'allergie. Donc oui, c'est possible, voilà, mais ça se soigne.
Bon, ah, très bien. Merci beaucoup, professeur Magnan, d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci vraiment pour tous vos conseils et pour cette mise au point très intéressante. Hein, vraiment.
Merci beaucoup à vous.
Merci, professeur. À présent, Julia, il est l'heure, il est midi 20. C'est le moment de notre chronique Vite fait, très bien fait, avec vous, Nicolas Carreau. Vous êtes le monsieur livre d'Europe 1 et vous nous parlerez de temps en temps dans cette émission des livres qui font du bien. Aujourd'hui, c'est un voyage.
Et surtout, vous dire que parfois, la littérature est un bon palliatif à la réalité. Vous allez voir, ça s'appelle donc Voyage avec un âne dans les Cévennes, signé Robert Louis Stevenson, qu'on connaît plus pour L'île au trésor ou Dr Jekyll et Mr Hyde.
Alors moi, ça me fait penser à un film, Voyage avec un âne dans les Cévennes, ça fait penser au film de l'année dernière, là, vous savez, Antoinette, c'est ça, dans
Exactement.
Les Cévennes.
Exactement, mais c'est inspiré du livre, plus ou moins, enfin, surtout du chemin de randonnée, c'est le GR70, mais je vais y revenir. Voyage avec un âne dans les Cévennes est publié en 1879, l'année d'avant Stevenson à 27 ans. Il est en France parce qu'il cherche l'aventure. Il fréquente des artistes du côté de Barbizon, il fait attention à ses sous parce que son père le menace de lui couper les vivres s'il ne rentre pas dans son Écosse natale, mais il est amoureux. Et elle est américaine, elle s'appelle Fanny, Fanny Osborne.
Bon, bah tout va bien.
Ben oui, sauf que Fanny a deux enfants et elle est mariée quand même. Donc...
Ah mince, c'est bien précisé.
Elle doit rentrer en Amérique, en Californie, parce que elle, c'est son mari qui menace de plus donner d'argent. Elle s'en va donc avec ses enfants et Stevenson est fou de tristesse, ça va pas. Il décide donc de partir, de quitter sa bande de copains pour s'isoler un peu, faire le point, tout ça. Ça tombe bien, il voulait visiter les lieux dont parle George Sand dans ses romans, du côté du Velay, vous savez, le puits en Velay. Il débarque au Monastier, un petit village en Haute-Loire. Il reste là quelques semaines, il vadrouille à droite à gauche et un jour, il part. Il veut marcher vers le sud et écrire un récit qui s'appellerait « Voyage dans les Highlands français ».
Mais dites-moi, il ne devait pas voyager avec un âne.
Si, il est passé où celui-là ? Et il en trouve un, plutôt une, pour 65 francs et un verre d'eau de vie. Elle s'appelle Modestine et les deux ne s'aiment pas du tout. Mais alors pas du tout, Modestine n'obéit jamais, elle s'arrête tout le temps. Stevenson a un peu de mal avec la bête, mais bon, il y va. Il fera pas moins de 200 km en traversant le Gévaudan et les Cévennes et c'est un livre génial. Il raconte ce qu'il voit, les paysages, les gens, comment il dort parfois à la Belle Étoile. Au passage, c'est lui qui invente le terme sac de couchage dans ce livre. Eh oui. Et il fait des rencontres sur la route, mais chez Stevenson, c'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il dit la vérité. Il dit aussi quand les Cévennes le saoulent. Et il parle aussi de Modestine parce qu'ils finissent par devenir les meilleurs amis du monde.
Elle le saoulait, mais ça va mieux après. Exactement. Je crois qu'on peut aujourd'hui, Nicolas, marcher sur ses traces. Hein.
Voilà. Et c'est là où je voulais en venir. Parce qu'après avoir lu ce livre, j'ai voulu faire le même parcours. Alors, je me suis décidé. C'était fin juillet. Il faisait beau, il faisait chaud. J'arrive au Monastier, je prends une petite chambre d'hôtel. J'avais acheté plein de trucs, des chaussures de marche déjà parce que c'était ma première randonnée, un couteau suisse même parce que je voulais me faire plaisir en hommage à MacGyver, une boussole et un tas de trucs inutiles comme ça.
Mais attendez, pour une randonnée, ça peut servir une boussole, Nicolas.
Mais oui, mais non, parce qu'en fait, tout est hyper balisé, on ne peut pas se perdre sur ce chemin et donc je pars seul. Le lendemain matin, je me suis levé à l'aube, genre 6h30, sans âne, et je commence à marcher. Alors c'est merveilleux, quoi. Je me dis, il fait bon, le soleil est à peine levé, je commence à penser à la vie, vous savez. À l'univers et au reste. Sauf qu'au bout de 3 heures, j'ai chaud, j'en ai plein les jambes, il faut que je me dépêche parce que j'ai prévu de dormir à 30 km de là et j'ai rien réservé du tout. Mais surtout, c'est blindé de monde. Le GR70 s'appelle aussi le chemin de Stevenson. On peut louer des ânes et tout, il y a des indications sur Stevenson. Et donc, il y a plein de touristes qui veulent faire le même parcours. Il y a ceux qui viennent pour la bête du Gévaudan aussi. C'est l'autoroute et plein de gens qui sont là pour faire des rencontres enrichissantes aussi. Sauf que moi, je voulais être seul. Pour une fois, je voulais échapper au monde. Pour une fois dans l'année, je voulais être seule, mais non.
Et en fait, il y a plein de gens qui veulent voyager avec des ânes et tout. C'est très à la mode. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé, Nicolas ? Je vous l'aurais dit.
De ne pas y aller.
Bah ouais,
ça a été un fiasco, Nicolas. Mais peut-être parce que vous n'aviez pas votre modestie, on ne sait jamais.
J'étais jamais vraiment seule. Il y avait toujours un marcheur qui me proposait qu'on marche ensemble. Et bah, vous ne pouvez pas dire non en plus, parce que ce n'est pas méchant, c'est gentil en vrai. Résultat, j'étais exténuée. J'ai compris qu'à la fin, qu'en fait, les étapes, c'était plutôt 15-20 km, pas 30-35 bornes comme j'ai fait. Tout ça pour dire que le livre, lui, m'avait fait beaucoup de bien, mais la réalité du terrain, bof, très bof. Donc mon conseil, lisez ce livre, mais ne vous laissez pas avoir par le côté bucolique et marcheur solitaire, ça n'arrivera pas, sinon ce sera bien fait pour vous.
Mais c'est chouette. Mais
fait un petit clin d'œil, vous avez vu, ça serait bien fait pour vous.
Il a dit ça. Oh, il est gentil, Nicolas Carreau. Et au fait, ils se sont retrouvés, Stevenson et Fanny, ou
pas ? Ah oui, Énorme histoire d'amour. C'est d'ailleurs pour les enfants de Fanny que Stevenson, un jour, a raconté l'histoire de l'île au trésor. Et puis ensuite, qu'il l'a publié avec le succès qu'on sait.
Et vous avez rencontré quelqu'un sur les chemins, vous, ou pas?
Ben, trop de gens, je vous dis.
Mais non, mais pas d'histoire d'amour, je veux dire. Ah non, d'accord.
Pas d'histoire d'amour.
Mais moi, j'ai une question, parce que vous nous dites aujourd'hui, les livres nous font du bien. Celui-ci, donc, quand vous l'avez lu, vous a fait beaucoup de bien. Une fois sur place, ça n'avait pas l'air tip-top. Mais vous vous investissez tout le temps autant quand vous aimez un bouquin, Nicolas.
Mais, non, mais c'est ça ce qui est fabuleux. Et c'est pour ça que je vous mets en garde. Quand vous lisez le livre, c'est tellement bien fait que vous voyez. Vous marchez avec Stevenson et donc ben vous avez envie d'aller voir sur les lieux parce que vous vous dites bon, bah les Cévennes ça va, même s'il y a 150 ans d'écart, il n'y a pas eu non plus des transformations gigantesques. Enfin, j'imagine que si, il y a beaucoup de transformations, mais on reconnaît beaucoup de chemins, de forêts et tout ça, de roches.
Mais vous voyez, parfois il vaut mieux voyager dans sa tête. Et on va terminer cette émission sur cette très jolie phrase. Allez, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est ça, voyage avec un âne dans les Cévennes, donc pour voyager sans se fatiguer, c'est l'intérêt de la littérature. Merci Nicolas pour vos conseils livres, ces lectures qui nous soignent elles aussi d'une certaine façon parfois. Voilà, bien fait pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve bien sûr demain à la même heure, dès 11h. Et Julia, tiens, dites-nous, quelle sera notre grande question demain?
Alors demain, Mélanie, notre question sera la suivante. Qui a dit que vieillir était un crime? Et oui, on verra qu'il est possible de prendre de l'âge tout en douceur. On vous guidera dans cette voie, que du positif donc, car, écoutez bien, la confiance en soi, elle n'a pas d'âge, Mélanie.
Et puis il y aura d'autres nouveaux sujets de tendance, de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos questions sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.